Rubens, peintre d'apparat et diplomate, par Gaston de Ris. Un art qui, dans son pays, s'approchait de la perfection, le prodigieux flamand apporta des accents nouveaux. À la minutie savante, à la vigueur du réalisme, il ajouta le souffle de l'idéal et l'envolée du lyrisme. Il bondit dans les espaces illimités de l'imagination. Mais Rubens fut autre chose que ce peintre magnifique. D'abord, un grand diplomate, un homme public chargé de missions importantes et délicates, en qui les rois déposaient leur confiance. Puis il mena une existence véritablement princière. Il fut un merveilleux patricien. Comblé d'honneur, gorgé d'hommages, il se meut dans le plus extraordinaire et le plus fastueux des romans. La gloire vient à lui sans qu'il la sollicite. Le génie coule de sa main et de son cerveau avec une spontanéité de source. Ce surhomme brille comme un météore. Et c'est cette vie exceptionnellement éclatante, cette vie tout tissue de splendeur et d'orfroi, que nous allons essayer d'évoquer. Pierre-Paul Rubens vit le jour en Westphalie en 1577 d'une famille noble qui tire son origine de Styrie et qui s'établit à Anvers au début du XVIe siècle. Son père avait exercé de hautes magistratures dans cette dernière ville, mais les troubles religieux l'en avaient éloigné. Dernier de 7 enfants, Pierre-Paul était destiné à la robe. Il avait 10 ans quand son père mourut. Sa mère revint à Anvers où elle était née. Rubens y continua ses études, parla et écrivit bientôt le latin aussi facilement que sa langue maternelle. Il est agréé en qualité de page dans une des plus nobles familles de Flandre. Mais il ne tarda pas à se dégoûter de la vie d'oisiveté qu'il y menait, et il annonça à sa famille qu'il sentait s'éveiller en lui une vocation de peintre. Au bout de 4 ans d'études, il se montrait supérieur au professeur qu'on lui donna. Il partit pour l'Italie à l'âge de 23 ans, afin de se perfectionner dans son art au contact des maîtres de la Renaissance. Là, son génie s'émancipera et acquérera une souplesse et une liberté qui manquent à ses premières productions. À Venise, il se grise du Titien et s'enivre de Véronèse. Le duc de Mantoue l'attire bientôt à sa cour, charmé à la fois de ses talents et de son érudition. Il gagne à tel point la confiance de ce prince que celui-ci l'envoie à la cour d'Espagne pour présenter au roi Philippe III de riches présents. Voilà la première mission diplomatique de Rubens, qui s'en acquitta avec une habileté qui lui valut les plus grands compliments. Nous le trouvons ensuite à Rome, où il copie l'étoile des maîtres. À Florence, où le grand-duc lui demande d'orner la galerie des peintres célèbres de son portrait peint par lui-même et lui fait exécuter plusieurs toiles. Les Carrache l'attirent à Bologne, les magnifiques coloristes de l'école vénitienne le ramènent à Venise. Le voici encore à Rome, où le pape et les cardinaux l'accablent de commandes. À Gênes, les premiers magistrats et la noblesse lui réservent un accueil extrêmement flatteur. Soudain, il apprend que sa mère est gravement malade et se hâte vers la Flandre. Il reçoit en route la nouvelle de la mort de cette mère bien-aimée et se retire à l'abbaye de Saint-Michel, près de Bruxelles, tout abîmée de douleur. Quand il reparaît à Anvers, les honneurs qu'il reçoit sont ceux qu'on réserve aux princes les plus distingués. Ainsi, non seulement Rubens n'aura connu aucune des difficultés, des angoisses, des luttes, des hostilités, des injustices qui sont presque toujours l'inévitable rançon du génie, mais par une complaisance inouïe et quasi surnaturelle du destin, tout s'aplanit devant lui. Les fruits de la richesse et de la gloire s'abaissent doucement pour que sa main l'écueille. L'extraordinaire, c'est que cette facilité miraculeuse d'une vie protégée par toutes les bonnes fées n'ait point gâté son génie. Au contraire, il ne cesse de s'élever et de s'exalter. Après la période de début, qui était déjà d'un maître, c'est l'émancipation de la période italienne, avec la Sainte Trinité, Sainte Hélène, l'érection de la croix de l'hôpital de Grasse, les scènes de la vie de Jésus et des apôtres du musée du Prado, la transfiguration du musée de Nancy. Nous voici au seuil de la période anversoise. Le génie se manifeste ici avec une abondance, une fougue, une puissance, un éclat qui tiennent du prodige. Et ce sont ces magnifiques toiles du musée d'Anvers, comme l'adoration des mages. C'est la descente de croix de la cathédrale d'Anvers, la pêche miraculeuse de la cathédrale de Malines, la bataille des Amazones, la chasse au lion du musée de Munich, la kermesse du Louvre. Veut-il retourner en Italie, dont le climat convenait mieux à sa santé et dont l'atmosphère de chef-d'œuvre manquait à son esprit. L'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas, l'enchaîne en Flandre par ses bienfaits, l'appelle à la cour de Bruxelles, le gratifie d'une pension considérable du titre de chambellan. Mais Rubens veut fuir les fêtes de la cour pour travailler dans le calme. On l'autorise à résider à Anvers, où il se fait bâtir une maison somptueuse, véritable palais. Il l'orna, écrit un de ses biographes, d'une collection de belles peintures et de précieux morceaux de sculpture antique, une rotonde qu'il avait fait élever exprès entre cour et jardin et qui était percée de grandes fenêtres cintrées et surmontée d'un dôme. L'atelier qu'il fit également construire n'était pas moins remarquable par son étendue que par la beauté de son escalier. Cette princière demeure demandait une maîtresse de maison. À 33 ans, Rubens épouse la belle Isabelle Brandt, nièce de la femme de son frère aîné, Philippe Rubens, secrétaire de la ville d'Anvers. L'archiduc Albert tient à tenir sur les fonts baptismaux son premier enfant. Peu de temps après son mariage, Rubens exécute ce délicieux portrait du peintre et de sa femme qui se trouve à la Pinakothèque de Munich et qui traduit dans une symphonie si émouvante et si délicate la félicité des deux époux. Elle, tendre, gracieuse, câline, lui, épanoui dans sa robuste et aristocratique beauté, de fierté sereine et fervente. Une vie de travail ordonné fait qu'on s'ouvre devant Rubens. Il se lève avec l'aurore et peint jusqu'à 5 heures, ne coupant cette longue séance que par un repas. Le soir, il s'entretient avec les hommes les plus distingués de son époque. Il enrichit son esprit, déjà si cultivé, par la lecture des philosophes et des savants. Il peint beaucoup de tableaux religieux, des triptyques, la fameuse descente de croix de la cathédrale Lambert, tableau dont le succès fut tel qu'il lui fallut le répéter souvent en variant les attitudes. Simultanément, il s'attaque à des sujets profanes et se joue avec une virtuosité frémissante et allègre dans le paganisme de la Renaissance. Ce sont des silènes épais et rieurs, des nymphes épanouies aux chairs nacrées. Mais ce n'est pas un Olympe de commande. Tous ces demi-dieux et ces faunesses éclatent d'une nuit profonde et leurs modèles sont pris dans la vie, reflète la joie des kermesses et la splendeur rayonnante des flamandes aux joues colorées et aux opulentes carnations. Rubens vit entouré d'élèves qui le vénèrent et qui porteront ses grands noms. Jordaens, Van Dyck, Van Egmond, Jean Bruegel, Simon de Vos, les Téniers. Il travaillait sous sa direction et se soumettait avec piété à sa discipline. Il développait ses esquisses, que le maître retouchait, mettait au point, chacun gardant sa spécialité, celui-ci les mains, celui-là les cheveux, cet autre les ciels, cet autre encore les bocages. Sa renommée s'étend sur l'Europe. Marie de Médicis l'appelle à Paris pour lui confier la décoration de la galerie d'honneur de son palais du Luxembourg. En moins de 2 années, il exécute dans son atelier les 21 toiles magnifiques qui, à travers l'ingénieuse harmonie des allégories, évoquent en les glorifiant les circonstances les plus marquantes de l'histoire de la reine. Ces vastes peintures, exécutées comme par enchantement, et où son génie se jouait avec autant d'aisance, dans un éblouissant équilibre de forme et de couleur, que si son pinceau se fait exercer sur une esquisse, provoquent des admirations enthousiastes, et la reine lui demande d'exécuter une seconde suite de tableaux consacrés aux faits de Henri IV, qui devait trouver place dans une galerie parallèle. Rubens en entreprit les esquisses, dont 2, la bataille d'Ivry et l'entrée de Henri IV à Paris, se trouvent au musée des Officines à Florence. Mais Marie de Médicis se brouille avec Louis XIII et s'en fut quérir en refuge à la cour de Bruxelles avec son second fils, Gaston d'Orléans. Le projet d'apothéose picturale fut suspendu. Les 6 esquisses commencées furent dispersées à la mort de Rubens. Si Rubens n'achève point le monument qu'il devait ériger à la gloire d'Henri IV, il est chargé d'obtenir la médiation de l'infante Isabelle et du roi d'Espagne dans le différend qui séparait Marie de Médicis de son fils. Tout son crédit et toute son habileté ne purent faire aboutir cette négociation, et la reine s'en fut terminer ses jours dans l'isolement et la gêne à Cologne, où elle mourut, par une coïncidence curieuse, dans une maison que le peintre avait habitée durant son enfance. Rubens avait fait connaissance à Paris du duc de Buckingham, favori de Charles Ier, roi d'Angleterre, qui l'engagea à travailler à dissiper les malentendus qui s'élevaient entre les couronnes d'Espagne et d'Angleterre. Il s'ouvrit de ce désir à l'archiduchesse Isabelle, veuve du gouverneur des Pays-Bas, qui lui conseilla d'entretenir un commerce épistolaire avec Buckingham, tandis qu'elle négocierait avec la cour d'Espagne. Nous le voyons remplir une mission à Delft, au nom de l'archiduchesse, puis à Londres, en qualité d'ambassadeur, au nom du roi d'Espagne. Croyant qu'il allait renoncer à la peinture pour se consacrer tout entier à la diplomatie, Buckingham demande à Rubens de lui vendre sa collection de tableaux identiques. Rubens hésita longtemps avant de céder à ses sollicitations amicales, mais il se reconstitua en peu de temps un cabinet de haut goût. Rubens avait reçu un coup terrible en perdant sa femme, qu'il adorait, à la veille de la cinquantaine. C'est pour endormir sa douleur qu'il accepte ses missions diplomatiques qui l'entraînent en Angleterre, puis à Madrid, où, sous prétexte de portraiturer la famille royale, il poursuit la réconciliation de l'Angleterre et de l'Espagne. Anobli par Charles Ier, anobli par Isabelle, comblé d'honneur, c'est encore lui qu'on charge de traiter avec le prince d'Orange lors de la rébellion de la Hollande contre les Pays-Bas espagnols. Enfin, un événement intervient, restituera Rubens tout à la peinture. À 54 ans, il épouse Hélène Fourmand, jeune fille de 16 ans d'une admirable beauté, à la fois robuste et délicate et d'un teint éblouissant. Dès lors, dans toutes les œuvres du grand peintre, apparaîtront les grâces charmantes d'Hélène Fourmand, passionnément aimée par son mari, dont le talent, tout en conservant son énergie et sa force, se veloute d'une sorte de tendresse et unit la douceur à la fougue. Fort nombreux sont les portraits de la délicieuse Hélène, particulièrement à Munich. Le Louvre nous montre Hélène et ses deux enfants. À Londres, à Berlin, à Vienne, nous pouvons l'admirer sous les traits d'une déesse, mais les plus beaux portraits sont en Angleterre. Rubens s'attaque encore, et avec le plus rare bonheur, à de grandes compositions historiques, mythologiques ou religieuses, comme l'enlèvement des Sabines de la National Gallery, la kermesse du Louvre, le martyr de Saint-Liévin de Bruxelles. Pour se délasser, il traduit les paysages qui environnent son fastueux château de Steen à quelques lieues d'Ambert. Il fait preuve d'une inlassable activité. Jamais sa production n'a été si féconde ni si magnifique. Et comme l'observent des critiques qui ont étudié son œuvre, il semble que pendant qu'il peignait, un génie, l'enlevant d'un coup d'aile, séparait Rubens du reste des humains. Périès compte que lorsqu'il travaillait, il avait près de lui une personne qui lui lisait des passages de Plutarque, de Tite-Live, de Tacite, d'Homère ou de Virgile, ou les ouvrages qui avaient du rapport au sujet qu'il exécutait. Il parlait avec autant d'aisance que sa langue maternelle, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. La marche, l'équitation, la chasse, le plaisir de recevoir ses amis, telles étaient ses distractions. Malgré cette vie si saine et si bien ordonnée, Rubens, à 57 ans, souffrit de cruelles attaques de goutte qui finirent par l'empêcher de peindre et l'emportèrent en 1640. Anvers lui fit des funérailles splendides, auxquelles assistèrent toutes les corporations. Sa veuve lui dédia un mausolée superbe dans l'église Saint-Jacques d'Anvers et l'orna d'une toile du maître figurant la Vierge entourée de saints, où l'on assure qu'il s'est peint sous les traits de Saint-Georges et qu'il a reproduit l'effigie de ces deux femmes. Les souverains de l'Europe se disputèrent les tableaux et les objets de curiosité de ses collections. Quant à Hélène Fourmand, veuve à 26 ans avec 5 enfants immortalisés dans tous les grands musées, elle se remaria vers la trentaine avec un diplomate. C'était Rubens, peintre d'apparat et diplomate, par Gaston de Risse.